Nous allons lire, si vous le voulez bien, quelques versets dans le livre des Nombres. Je viens de chanter quelque chose là, dans notre cantique, que face à face en ta lumière, nous te parlerons, Saint Agneau. C'est vrai, mais je crois qu'on peut en parler au présent aussi. Extraordinaire de pouvoir parler à notre Seigneur et l'écouter nous parler. Alors, je voudrais vous proposer une lecture dans le chapitre 8 du livre des Nombres, en commençant par le dernier verset du chapitre 7, qui est un petit peu la clé, et puis vous proposer quelques applications pour aujourd'hui. Quand on lit l'Ancien Testament, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner, parce que pour aujourd'hui, l'Ancien Testament. Mais si, vous allez voir, on va essayer. Alors, verset 89 du chapitre 7 des Nombres. Et quand Moïse entrait dans la tente du rendez-vous pour parler avec lui, il entendait la voix qui lui parlait de dessus le propitiatoire qui était sur l'arche du témoignage d'entre les deux chérubins, et il lui parlait. Déjà ce verset. Moïse peut être pris comme un type du Seigneur Jésus qui va guider le peuple de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu sur la terre, et une image donc du Seigneur Jésus qui nous guide. Mais là, dans ce verset, c'est pas ça. La pensée, c'est voilà un homme en contact avec Dieu. Et vous voyez où il se trouve là, juste le propitiatoire est là, c'est-à-dire la base. Qu'est-ce qui fait que la communication est possible? Parce qu'il y a le sacrifice du Seigneur Jésus. Et si vous avez remarqué ici, pour lui parler, on ne sait même plus qui parle à qui. Ça veut dire vraiment là qu'il y a la vraie communion. Je parle à quelqu'un et il me parle. Alors, je voudrais dire déjà une première chose, c'est que on a quelquefois une mauvaise compréhension de la communion. Peut-être qu'on dit, oui, je suis en relation avec Dieu parce que je lui parle, c'est-à-dire je lui prie, je lui dis toujours quand j'ai des problèmes. Est-ce que ça vous est arrivé d'aller vous promener avec quelqu'un, et pendant une heure, et cette personne, elle a parlé tout le temps. Et après, à la fin de l'heure, elle dit, oh, on a une bonne communion tous les deux, vous n'avez pas pu en placer une. Là, c'est pas ça vraiment, l'échange et la communion. La communion, c'est quand on peut parler, et on va se taire pour écouter la personne qui nous parle. Et vous savez, quelquefois avec Dieu, il y a des gens qui disent « Ouais, Dieu, c'est ta roue de secours. » Mais on fait un peu comme ça. On a un problème, on va vite appeler Dieu, on va lui parler. Et puis après le reste du temps, on n'écoute rien. Et puis, oh, on a un problème, vite, on va prier. C'est bien, cette démarche. Mais Dieu, il aime autre chose. C'est un Dieu vivant. Notre Seigneur Jésus est un Christ vivant. Et alors, il a tant de choses à me dire. Alors, est-ce que je sais lui l'écouter? Écoutez Dieu. Écoutez Dieu dans ma vie. Dieu est vivant. Quand l'apôtre Paul dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Oui, d'un côté, mais de l'autre, dans le livre de Galates, quand il dit au chapitre 2, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Ce que je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Il s'agit là d'une relation avec un Christ vivant. Voilà donc, peut-être pour, en introduction à ce que je voudrais vous lire, c'est ma vie est transformée lorsque je suis en relation vivante avec un Christ vivant. C'est-à-dire que c'est un échange dans ma vie de tous les jours. Et ça, ce n'est pas une question de mystique, de fermer les yeux très fort et puis voilà. Non, c'est dans ma vie de chrétien, je parle à quelqu'un de vivant et j'écoute cette personne qui veut me parler. Et dans ce chapitre 8, on va découvrir, et je vous dis tout de suite comme ça en introduction, comment devenir un bon serviteur de Dieu. Alors la première clé, elle était là. C'est-à-dire chercher la présence de Dieu. Alors, le premier paragraphe du chapitre 8, c'est une question de lumière. On est là dans la lumière de Dieu, mais ce n'est pas seulement une lumière de quelqu'un qui va voir jusqu'au fond de mon cœur. Oui, sans doute. Une lumière, ça réchauffe. On a besoin de cette présence qui réchauffe mon âme, mon être intérieur. Alors à partir du verset 5, on va lire ensemble, si vous voulez bien. Donc chapitre 8, verset 5. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Prends les Lévites du milieu des fils d'Israël et purifie-les. » Alors, je voudrais tout de suite dire la correspondance des Lévites avec nous aujourd'hui. Et peut-être que je vous l'explique avec les versets 16, versets 15 et 16 de ce chapitre. « Après cela, les Lévites viendront pour faire le service de la tente du rendez-vous. C'est le rendez-vous, c'est la présence de Dieu, le lieu de la présence de Dieu. Tu les purifieras, tu les offriras en offrande tournoyée, car ils me sont entièrement donnés du milieu des fils d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place de tous ceux qui ouvrent la matrice, de tous les premiers-nés d'entre les fils d'Israël. Et tout premier-né parmi les fils d'Israël est à moi. Tant les hommes que les bêtes, je me suis sanctifié le jour où je frappai tout premier-né dans le pays d'Égypte. J'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés parmi les fils d'Israël. Et je les ai donnés, j'ai donné les Lévites en don à Aaron et à ses fils du milieu des fils d'Israël pour s'employer au service des fils d'Israël. J'explique un mot. Alors, voilà ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël en Égypte. Donc dans ce pays où le dominateur est quelqu'un qui dit « je ne connais pas Dieu » et qui tient esclave le peuple de Dieu. Une image du diable avec tout ce pouvoir sur l'homme. Et voilà, il y a eu la Pâque. La Pâque, c'est l'agneau sacrifié qu'on a rappelé ce matin. L'image du Seigneur Jésus, notre Pâque, Christ a été sacrifié. On peut bien faire le parallèle. Alors, voilà le peuple qui est quoi ? Eh bien, là, les premiers-nés devaient mourir. Ils sont délivrés de la mort. Les voilà maintenant rendus vivants, ceux qui étaient morts. C'est une image de nous, les croyants. Et nous sommes maintenant vivants. Alors, pourquoi faire ? Eh bien, ceux qui sont vivants, qui devaient mourir, ils sont vivants. Et il dit Dieu, ils sont à moi, ceux-là. Ils m'appartiennent. Ils sont pour moi. Vraiment, ils m'appartiennent. Et il est dit ici que les Lévites sont pris à la place des premiers-nés. Voilà donc une image de ceux qui sont nés de nouveau, qui ont la vie de Dieu. Eh bien, ceux qui sont nés de nouveau, voilà ici des Lévites qui sont, on peut dire, mis à la place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute personne née de nouveau, et nous, j'espère que tout le monde ici est né de nouveau. Alors nous sommes maintenant des serviteurs de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ce sont des images, et c'était donc des classes de personnes. Il y avait des sacrificateurs qui offraient la louange. Mais nous sommes tous des sacrificateurs, regardez Pierre nous le dit. Une maison de sacrificature pour louer Dieu. Eh bien voilà, eh bien on va louer Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et puis nous sommes tous des lévites, des serviteurs de Dieu, dès notre conversion. Il ne faut pas attendre d'avoir fait tout un tas de diplômes. Alors voilà, là ça y est, j'ai le diplôme, je suis serviteur de Dieu. Non, à partir du moment où je suis un enfant de Dieu, ici à la place des premiers-nés, je suis donc un serviteur. Donc ça nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Donc voilà, je ne m'appartiens plus à moi, il est à moi, donc je ne m'appartiens plus. D'ailleurs Paul, il l'a dit aussi. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, vous n'êtes plus à vous-même. Mais nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu. Alors, vous voyez, nous allons lire ici quelque chose, nous sommes donc tous serviteurs. Mais est-ce que nous sommes des bons ou des mauvais serviteurs ? Alors on va essayer de trouver 7 points dans les versets 7 à 12 qui vont nous aider à être des bons serviteurs de Dieu. Et on verra que dans le service de la maison de Dieu, il y a aussi des âges à la fin de ce chapitre. Alors je vais lire maintenant à partir du verset 5 et suivant. Et l'Éternel parla à Moïse disant, « Prends les Lévites du milieu des fils d'Israël et purifie-les. » C'est-à-dire mets-les dans une situation où ils vont pouvoir être vraiment à mon service sans être gênés par quoi que ce soit. Voilà, purifie-les, mets-les bien à part. Et tu leur feras ainsi pour les purifier. Tu feras aspersion sur eux de l'eau de purification du péché. Et ils feront passer le rasoir sur toute leur chair. Et ils laveront leurs vêtements et se purifieront. Ils prendront un jeune taureau et son offrande de gâteau, de fleurs de farine pétrie à l'huile. Et tu prendras un second jeune taureau pour sacrifice pour le péché. Et tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation. Et tu réuniras toute l'assemblée des fils d'Israël. Et tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel. Et les fils d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Et Aaron offrira les Lévites en offrande tournoyée devant l'Éternel de la part des fils d'Israël. Ils seront employés au service de l'Éternel. Et les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice pour le péché, et l'autre en holocauste à l'Éternel, afin de faire propitiation pour les Lévites. Et tu les feras tenir les Lévites devant Aaron et devant ses fils, et tu les offriras en offrande tournoyée à l'Éternel. Et tu sépareras les Lévites du milieu des fils d'Israël, et les Lévites seront à moi. Et alors on voit que donc, ce travail va être fait. Au verset 21, et les Lévites se purifièrent, lavèrent leurs vêtements, Aaron les offrit en offrande tournoyée devant l'Éternel, et Aaron fit propitiation pour eux pour les purifier. Et après cela, les Lévites vinrent pour faire leur service à la tente d'assignation devant Aaron et devant ses fils. Comme l'Éternel avait commandé à Moïse touchant les Lévites, ainsi on fit à leur égard. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « C'est ici ce qui concerne les Lévites, depuis l'âge de 25 ans et au-dessus. Le Lévite rentrera en service pour être employé à la tente d'assignation, et depuis l'âge de 50 ans, il se retirera du labeur du service et ne servira plus. Il s'emploiera avec ses frères à la tente d'assignation pour garder ce qui doit être gardé, mais il ne fera pas de service. Tu feras ainsi à l'égard des Lévites touchant leur charge. » Donc voilà, pour devenir un bon lévite, c'est-à-dire un bon serviteur de Dieu, et nous sommes tous concernés, la première chose que nous avons lue dans ce verset 7, tu feras aspersion sur eux de l'eau de purification du péché. C'est quoi cette eau de purification du péché? Ou l'eau de séparation? Faire aspersion, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, ça veut dire appliquer la signification de la chose à quelqu'un. Et qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et on le trouve dans le chapitre 19 des Nombres. C'est une eau qui a été mélangée avec de la cendre d'une génisse rouge qui a été brûlée. Sa cendre est mélangée et là, c'est aspergé. On asperge la personne. Il ne s'agit pas là d'une conversion. Là, ces Lévites, ils sont passés par la mer rouge. Ils sont donc sauvés. Mais maintenant, ils ont besoin pour leur vie de serviteurs d'appliquer cette mort de Christ à eux-mêmes. La mort, ça veut dire que ça fait séparation entre deux domaines complètement différents. Le domaine du monde d'où nous sortons, avec cette manière de penser, de réfléchir, d'organiser sa vie sans Dieu, et notre domaine où notre vie est dépendante de Dieu, où on se soumet à la volonté de Dieu, où on met tout à sa disposition. On commence le matin comment? Comment vous commencez le matin quand vous vous réveillez? Alors c'est vrai qu'on est plus ou moins en pleine forme au réveil. Il y en a qui font un peu de temps hein, avant que l'esprit rejoigne le corps, comme on dit. Et puis d'autres, ils sont tout de suite opérationnels. Mais est-ce qu'on commence le matin en se mettant dans la présence de Dieu? D'abord en remerciant le Seigneur de la vie qu'il me donne et qui commence, la journée commence, et on va passer une bonne journée avec le Seigneur. Et ça, ça va transformer les circonstances. Hein? Le fait de mettre sa vie dans cette présence. Savoir que Christ, quand il est venu sur la terre, c'est aussi pour nous séparer de toute cette influence mauvaise du monde et qui oriente mes choix. Et comment puis-je être un bon serviteur si je ne suis pas dans cette disposition de mon cœur, de mon âme, de mettre tout sous l'onction, si l'on peut dire, de l'œuvre du Seigneur Jésus. Vous savez, quand on est dans cette disposition-là, le péché, eh bien, il existe. Il a une vraie signification. On en a horreur, parce que notre Seigneur en a horreur, parce qu'il a tellement souffert à cause de cela. Alors, vous voyez, déjà, ça met une disposition pour, justement, vivre une belle journée. Donc, l'application de ce sacrifice du Seigneur Jésus, avec, justement, cette eau qui, puisque c'est une aspersion, l'action de l'Esprit, en quelque sorte, qui est là pour mettre en vie, raviver tout ce que Christ est, tout ce qu'il a fait pour moi, pour m'orienter dans ma journée. La deuxième chose que nous voyons ici, est ils feront passer le rasoir sur toute leur chair. Pourquoi? Quel est le problème? C'est les poils. Vous savez ce que c'est? C'est un problème, ça, les poils. Il faut toujours couper, ça n'arrête pas de pousser. Ça vient d'où? De l'intérieur. Mais finalement, qu'est-ce qui vient de notre intérieur? Regardez le Seigneur Jésus, quand il en parle dans l'Évangile. C'est pas ce qui vient de l'extérieur qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'intérieur. Il y a tout un tas de choses qui sont décrites. Et on retrouve ça dans l'Épître aux Colossiens. Il dit mortifié, c'est-à-dire coupé. Coupez justement tout ce qui pourrait sortir de vous et qui sont les fornications, les envies, les choses comme ça. Oh, la fornication, c'est pas pour moi, mais l'envie, la jalousie, etc. Vous regarderez hein, ce qui est marqué dans Colossiens. Alors, coupez tout ça. Alors, donc, le Seigneur va me donner cette possibilité de couper avec tout ce qui, au fond de moi, va peut-être faire m'amener à vouloir être quelqu'un, avoir envie de quelque chose qui n'est pas pour moi, avoir, vous voyez, ces convoitises, etc. Voilà, être quelqu'un. Pas seulement pour mon travail ou mes ambitions, mais aussi peut-être comme frère ou comme sœur dans l'église locale où je me retrouve, où je me trouve. Voilà, couper. Hein, c'est... Et ça revient constamment, vous le savez aussi bien que moi, ça. Et c'est chaque jour. Hein, faire passer le rasoir sur toute chair. Pas laisser une seule manifestation de la chair se concrétiser. Troisième chose, ils laveront leurs vêtements et se purifieront. Le vêtement, c'est ce que je montre à l'extérieur. Et vous savez que quand vous avez quelqu'un qui passe avec un costume, une casquette et des barrettes ici, vous dites « il est militaire ». Oui, parce que ça se voit comme ça. Hein. Si moi je sors de mon cabinet dentaire avec ma blouse, il va dire « oui, il est du milieu médical ». Ben oui, mon vêtement montre qui je suis. Mais alors il est ici, il est parlé ici de laver ce vêtement. De manière à ce que ce vêtement montre quoi ? Eh bien, il est dit quelque part que nous les chrétiens, nous avons revêtu le Christ. Laver, c'est l'action de la parole de Dieu. Cette parole qui est représentée dans la parole par, justement, l'eau, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui va, justement, laver mon extérieur. Ce qui fait que la personne du Seigneur Jésus va pouvoir être vue. Oui, que nous apprenions à lire vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu pour qu'elle puisse avoir son effet sur moi. Et vous avez remarqué qu'il n'est pas dit « vous changerez votre vêtement quand vous allez servir ». Autrement dit, moi je suis un homme du monde, le dimanche, je suis un chrétien. Puis quand je veux servir le Seigneur, je suis un chrétien. Puis le reste du temps, je suis quelqu'un comme les gens du monde. Changer de vêtement, non, laver, on ne change pas de vêtement. Nous ne sommes pas des schizophrènes. En étant un chrétien par-ci, et puis pas un chrétien par-là. Mais moi, quand je vous parle comme ça, c'est vraiment pour moi aussi que je parle. Parce qu'on aurait ici peut-être cette tendance de changer de vêtements. La parole de Dieu. Ah, je voudrais dire un mot sur la parole de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des dangers fantastiques. Fantastiques. Déjà, il y avait la télé. Et alors, c'était déjà, ça prenait du temps. Maintenant, il y a Internet. Et Internet, c'est à la fois extraordinaire et c'est une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Parce que franchement, peut-être que ceux qui sont plus âgés que moi ici sont moins touchés. Mais nous sommes dans une situation où on peut passer des heures et des heures à chercher des choses. Je ne dis pas qu'on va dans du porno, c'est pas ce que je veux dire. Mais passer même des heures à chercher des choses intéressantes. Et pendant ce temps-là, est-ce que vous avez le temps d'écouter Dieu ? Franchement. Mais chacun pour soi. Moi, je dis, c'est pour moi un problème. Un problème. Et j'ai eu un problème. Bon, j'ai un peu résolu ce premier problème, mais il n'est pas fini. Je me suis rendu compte qu'en rentrant chez moi, à une période, avant d'embrasser ma femme, je montais dans ma chambre et je cliquais sur mon truc pour voir s'il n'y avait pas eu du courrier. Enfin, j'ai dit, mais il y a un problème. C'est pas possible, ça. Et bien, justement, c'était ça la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a des outils extraordinaires pour apprendre beaucoup de choses. Et c'est un outil extraordinaire, Internet, pour que des gens puissent, dans le monde entier, entendre l'Évangile, oui. Mais attention, attention, c'est un voleur de temps. Un voleur de temps. Il n'y a pas beaucoup de jeunes ici, mais franchement, il y a une difficulté. Vous avez des bons contacts avec des amis que vous ne rencontrez pas, peut-être, souvent, c'est vrai. Mais ces conversations sont longues et souvent, eh bien, vous n'avez plus beaucoup de temps ou plus de temps du tout pour lire, c'est-à-dire écouter Dieu parler. Parce que quand on lit la parole de Dieu, ce n'est pas simplement pour lire un texte, mais c'est Dieu qui parle, c'est une parole vivante. Alors voilà, je voulais dire ceci, attention, danger, il y a des voleurs de temps, pas obligatoirement des mauvaises choses, mais alors on n'a plus le temps. Alors à ce moment-là, on n'a pas cette eau pour purifier notre vêtement. Alors, la quatrième chose que nous voyons, et c'est au verset 10. Tout ça, on pense bien, c'est la consécration du serviteur, c'est-à-dire, c'est pour que je devienne un bon serviteur. Au verset 10, tu feras, quatrièmement, approcher les Lévites devant l'Éternel, et les fils d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Alors, nous pensons bien, le fils d'Israël, c'est les chrétiens. Les Lévites, ce sont les serviteurs. Nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des Lévites. Attention, je ne parle pas là des frères à l'œuvre. Non, non, nous sommes tous Lévi. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez des chrétiens, c'est-à-dire mes frères et mes sœurs, qui vont poser la main sur moi. C'est bien ce que nous avons lu. Et moi, je vais poser la main sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire, poser la main? Ça veut dire s'identifier. Ça veut dire avoir communion. Alors, c'est pas trop dans notre culture, dans nos assemblées de frères, de raconter ce que nous faisons pour le Seigneur. Je ne vais pas vous dire que là, à partir de maintenant, il va falloir tout raconter. Mais il y a des choses où on a besoin, justement, des prières des frères et sœurs. J'ai besoin de savoir aussi ce que votre service pour le Seigneur, pour prier pour vous. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres, pour être encouragés, pour grandir. Et combien nous avons besoin de prier pour nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui sont pleins de dynamisme pour le Seigneur, qui ont besoin justement qu'on soit là, à côté, pour justement les encourager, pour les stimuler. Rappelez-vous l'apôtre Paul qui avait justement mis sa main aussi pour la... Il y avait eu cette main des anciens, du corps des anciens, pour que Timothée puisse servir. Bon, Timothée! Mais moi, je ne m'appelle pas Timothée, je m'appelle Philippe. Mais j'ai besoin aussi de vos prières. Vous avez besoin de mes prières. Ça, je parle dans l'assemblée locale. Alors qu'on parle un petit peu de ce qu'on sert le Seigneur. Il y a des choses secrètes. Alors, il faut continuer à les faire secrètes. Mais on a besoin vraiment d'être une vraie famille de lévites, vous voyez, de serviteurs ensemble. C'est essentiel. Encouragez beaucoup la jeune génération. Vous allez parler, moi, je regrette de pas être dimanche prochain parce que franchement, c'est séduisant là le groupe. Moi, j'aurais été mis dans le groupe avec les jeunes là. Oui, ça m'intéresse follement ça. Mais vous savez, on s'est dit, mais quand on arrive à 60 ans, on dit ouais, il faudrait peut-être penser, on n'est pas éternel, il va falloir peut-être penser à la transmission. Mais c'est pas là. C'est ceux de 40 ans, ils sont en train de transmettre à ceux de 20 ans. Nous, on a transmis déjà il y a 20 ans. C'est pas quand on arrive à 60 ans ou plus qu'on va commencer à se dire qui va prendre la suite. Non, c'est une formation, on va le voir, depuis l'âge de 20 ans, c'est-à-dire la conversion. Et là, la formation accompagnée, l'accompagnement de nos frères et nos sœurs. Oui, ça c'est essentiel. Eh bien, mettre la main ici. Et vous savez, vous pourrez se dire, eh bien, ça peut arriver dans des assemblées où on n'aime pas justement partager. On a même dit quelquefois que il y a des frères, eh bien, la fonction les quitte et avant qu'ils s'arrêtent. Il vaudrait mieux quitter la fonction avant qu'elle nous quitte. Mais on pourrait se dire, quelquefois, ah oui, il y a ce jeune frère, cette jeune sœur, bah, je sais pas, mais un peu d'ombre. On dit pas ça, on dit pas, mais un petit peu, alors il va falloir un petit peu la freiner ou le freiner parce que là, mon ministère, il a l'air d'être un petit peu pâle à côté. Eh bien, regardez, il peut arriver que lorsque l'atmosphère dans une assemblée locale ne serait pas parfaite, qu'il y a un encouragement pour nous. Regardez ce qu'il y a, le cinquièmement, au verset 11. Et Aaron, type de Christ, c'est Christ, offrira les Lévites en offrande tournoyée devant l'Éternel de la part des fils d'Israël, et ils seront employés au service. Ça veut dire que quand on prie pour un serviteur, c'est-à-dire un chrétien, un jeune frère, une jeune sœur, ou mon frère et ma sœur qui est là, eh bien, on présente donc cette prière, et le Seigneur, il la présente à Dieu, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Aaron offrira, ici c'est une offrande tournoyée, ou balancée. Il y a deux sortes d'offrandes, il y a celle qui est élevée, c'est-à-dire en offre, et voilà, c'est donné à Dieu, et puis l'offrande tournoyée, balancée, vous savez, quand je vous fais ça, eh bien, vous êtes alerté, hein, même si vous êtes là, si vous êtes alerté parce que je fais ça. Et voilà, Dieu est alerté par son Fils. Regarde ses serviteurs. Hein. Eh bien, il peut y avoir des fois où dans l'atmosphère d'une assemblée locale, où on n'est pas là pour s'encourager et prier les uns pour les autres. Eh bien, je vous dirai une chose, vous n'êtes pas abandonné, parce que le Seigneur lui-même, Aaron, le divin Aaron, bien prie pour vous, vous présente au Père. Et tout ce que vous faites par amour pour lui, pour Dieu, est noté. Souvenez-vous de ces chapitres où David, à la fin de sa vie, va raconter les exploits des hommes qui l'ont été fidèles depuis la caverne d'Adullam. Eh bien, ça, c'est un encouragement. De savoir que, même si je ne suis pas compris de mes frères ou de mes sœurs, je suis compris de quelqu'un. Quand j'agis avec tout mon cœur, vraiment par amour, je peux me planter. Ça arrive, ça, qu'on se trompe. Mais ça, il ne m'en veut pas. Mais non. Moi, je vous dirais presque, vous ne croyez pas qu'on apprend beaucoup dans nos erreurs ? Il ne faut pas appeler ça des échecs, mais dans nos erreurs. Oui, on apprend beaucoup, parce que c'est là qu'on a besoin d'écouter vraiment peut-être plus Dieu, ou on écoute plus en tout cas. Eh bien, vous voyez, ici, dans cinquièmement, il y a cet encouragement de savoir que le Seigneur s'est jugé lui-même de ce qui est fait pour lui, par amour pour lui, par amour pour Dieu. Et ça, ça nous encourage. Alors, si on fait ça, les services un petit peu, tout seul dans son coin, sans être bien compris, c'est pas grave. Oh, c'est mieux quand on peut prier les uns pour les autres. Mais vous voyez, c'est pas grave, parce que vraiment, notre Seigneur note tout avec joie. Voilà, il présente cela à son Père, à Dieu, en disant, voilà ton serviteur. Quelque chose qui aussi peut nous aider justement à devenir ces bons serviteurs, c'est les sixième et septième points qu'on va trouver dans le verset 12. Vous voyez que les Lévites vont poser leurs mains sur la tête des taureaux, et alors il y a deux sacrifices. Il y a un sacrifice pour le péché, et il y a un holocauste. Alors poser la main, ça veut dire une identification avec le sacrifice pour le péché. Ça veut dire que toute mon indignité est mise là sur la tête de cet animal. Toute mon indignité a été prise par le Seigneur Jésus. Et pour pouvoir être un bon serviteur, il ne faut pas être dans le doute. Est-ce que vraiment Dieu m'aime ? Est-ce que le Seigneur m'aime ? Regarde ce que j'ai fait encore cette semaine, mais il ne peut plus m'aimer comme ça. Et on est dans les troubles, dans les doutes, dans les inquiétudes. Ça vous est jamais arrivé ça ? D'être dans cette inquiétude, non pas peut-être de dire « Dieu m'aime-t-il encore ? » Même encore, pourquoi pas ? Mais en tout cas, de dire « Mais est-ce que je ne vais pas être puni et être inquiet dans ma relation avec Dieu ?» Alors, pensons que cette identification avec un Christ qui a pris mon péché, alors je peux confesser ce péché, je sais que je suis agréé, Dieu m'aime comme je suis, mais dans l'honnêteté, la droiture de mon cœur. Alors voilà, mettre cette main sur ce sacrifice pour le péché. Alors ça, c'est essentiel. On ne peut pas servir si on n'est pas libéré, non seulement de ma culpabilité, mais aussi de ce que je suis dans ma nature. Et c'est d'ailleurs le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Pourquoi il arrive là, ce chapitre 12 de l'Épître aux Romains ? Offrons donc maintenant, il est dit, d'offrir nos corps en sacrifice vivant. Après quoi ? Eh bien, après avoir découvert que moi qui étais perdu, eh bien, je suis justifié, et que je suis entièrement mis à part pour Dieu, que la question de mon péché, il est réglé, de ma nature, en Adam, c'est réglé cette affaire. Et alors je peux être un serviteur, et je peux mettre ma vie au service de Dieu. La deuxième chose, ici l'autre sacrifice, et là aussi mettre la main sur l'autre sacrifice qui est un holocauste. Ça veut dire que là, en mettant ma main sur cette identification avec ce sacrifice, c'est-à-dire que toute la dignité du sacrifice vient sur moi. C'est-à-dire que comme nous trouvons au début de l'Épître aux Éphésiens, que nous sommes agréés dans le Christ, où nous avons été rendus agréables, dit la version Darby, dans le bien-aimé. Ça veut dire que maintenant, je n'ai plus honte de dire est-ce qu'il voudra bien de moi comme serviteur ? Oh, vous savez, je suis qu'un petit chrétien, une petite chrétienne. Oui, je n'ai pas beaucoup de connaissances, je n'ai pas beaucoup de ceci, je n'ai pas beaucoup de cela. Mais non, laissez ça tomber, s'il vous plaît. Laissez ça tomber. Vous n'avez pas besoin d'être autre chose que ce que vous êtes, mais vous êtes un bien-aimé du Seigneur. Et à ce moment-là, eh bien, en réalisant cela, vous pourrez donner ce que vous avez. Eh bien, si ce n'est pas la même chose que votre frère ou votre sœur, ce n'est pas grave. Mais on est tous différents et on apporte ce que Dieu produit dans ma propre vie. Alors voilà, vous avez vu ces sept points-là pour faire de nous des bons serviteurs de Dieu. Et alors, ils vont se purifier. Alors, ils l'ont fait une fois et puis ils ont servi. Mais je vous dirai une chose, nous, on le fait chaque matin, chaque jour. C'est quelque chose, c'est un travail continuel. Mais ce n'est pas un travail pénible, ça. Être un serviteur de Dieu, un bon serviteur de Dieu, c'est une vie où on se réjouit vraiment. On se réjouit vraiment avec notre Seigneur. Et s'il nous demande des choses simples, eh bien, c'est des choses simples. Et déjà, prier. Voilà. Passer du temps. Combattre dans la prière. Mais combien nous avons besoin de vos prières ? Et vous avez besoin de nos prières. On a besoin de prier les uns pour les autres. Aimer le peuple de Dieu. Aimer le Seigneur, c'est aimer le peuple de Dieu. Et on voit que ce peuple de Dieu va être plein de dynamisme. et pour toutes les activités qui peuvent se présenter, que ce soit de l'évangélisation, le suivi, les soins, que ça peut être tant de choses, la transmission, non pas d'une doctrine, mais d'une personne. Une personne qui remplit mon cœur et qui me donne envie de vivre. Alors vous voyez ici, toute la suite ici, là, voilà, et puis la fin, on voit des personnes, trois générations, ceux qui sont de 25 ans jusqu'à 50 avant, et puis après il y a de 50 et après. Quand vous lisez dans le livre des Chroniques, David dit « Ah, maintenant le peuple est arrivé à Jérusalem, il n'y a plus besoin de porter le tabernacle, il fallait être costaud quand même pour porter l'arche, etc. dans le désert, protéger tout ce qui était les trésors de Dieu au milieu d'un monde hostile. » Ça, c'est le combat chrétien. Mais vous êtes arrivés, il dit dans le livre des Chroniques, alors vous allez abaisser l'âge à 20 ans pour être lévite. Oui, alors vous savez peut-être que quand on a 20 ans, on ne va pas vous expliquer ce que c'est que l'expérience dans la vie chrétienne. Ça ferait bizarre quand même, hein? Un nouveau converti qui dit voilà ce que... Bon, il peut avoir lu des bons livres et dire des bonnes choses, mais enfin ça sonne pas très juste. Mais par contre, nous parler de l'amour de son Sauveur, alors là, ça dynamise une assemblée locale, vous ne croyez pas ça? Alors oui, on a besoin les uns des autres. On a besoin de ceux qui commencent à 20 ans. Et puis, de 25 ans à 30 ans, puisque c'est 30 ans qu'on portait, il y avait cet être auprès d'eux. Hein. Je voudrais juste vous lire à ce propos un verset, et j'ai presque fini. Donc, dans le livre des Psaumes, au chapitre 145, une expression que j'aime énormément, dans le psaume 145 et au verset 4, il est dit ceci. Psaume 145, verset 4. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération. C'est extraordinaire, cette expression. Auprès. C'est pas quand la génération sera finie, l'autre va s'y mettre. Non, c'est auprès de l'autre génération. Et elles raconteront les deux ensemble. Elles raconteront des actes puissants. Eh bien, voilà ici, de 25 à 30, être auprès de ceux qui sont vraiment dans le service, avec l'expérience du service. Et on a besoin que ces jeunes soient auprès de nous. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on sait les amener avec nous? Est-ce que nos sœurs savent emmener des plus jeunes sœurs, jeunes converties, quand elles font une visite, par exemple, ou pour quelque chose, un service pour le Seigneur? Est-ce que nous, les frères, on s'est accompagné un jeune frère, justement pour faire ses armes dans le service du Seigneur? Alors ça, c'est essentiel. Et deuxièmement, on a besoin d'eux. Franchement, on a besoin d'eux. Parce qu'ils voient des choses différemment que nous. Nous, on est déjà un peu dans nos schémas, vous savez, au bout d'un certain nombre d'années. Peut-être pas vous à Colomb, mais nous à La Rochelle, on est un petit peu dans nos schémas. Et puis au bout de quelques années, on est un peu déphasé. Mais si on est au contact continuel, on ne va pas tomber d'un escabeau. Hein, on va progressivement apprendre et on va pouvoir s'entraider. Ça, c'est essentiel. Et après, de 50 ans, à partir de 50 ans, il y a la... c'est pas la retraite. Vous voyez, ils se retirent du labeur. Il y a un moment donné où les forces physiques, morales, sont plus adaptées à certains combats, à certaines situations. Eh bien, il s'emploiera avec ses frères à la tente d'assignation pour garder. C'est le conseil. Combien on a besoin de conseils de nos frères et de nos sœurs qui sont plus âgés que nous. On a besoin de vous. Vous voyez? Alors, ce chapitre des Nombres, oui, c'est l'Ancien Testament, c'est les Lévites qui s'occupaient du tabernacle et des ustensiles, etc. Eh bien, c'est vraiment la parole de Dieu vivante pour moi aujourd'hui. C'est un texte qui m'aide justement à vivre chaque journée dans cette relation vivante avec ce Dieu vivant qui me fait l'honneur et le privilège d'être son serviteur, collaborateur de Dieu. Vous rendez compte de cette expression? Eh bien voilà, au service du Seigneur, il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie. Mais la clé, elle n'est pas dans ce que je vais avoir à faire, mais de ce que je suis. Et le Seigneur a dit, séparez de moi. Vous ne pouvez rien faire. Eh bien voilà, dans son amour, Dieu nous laisse de telles pages pour nous encourager, pour nous montrer qu'aujourd'hui encore, il veut nous former progressivement pour que nous soyons ces bons serviteurs dont il a besoin.